Les enquêteurs spécialisés de la Sûreté du Québec ont arrêté un nombre record de cyberpédophiles l'année dernière, notamment en raison de l'explosion des signalements par les géants du Web. Pour parler de tout ça, je pense que c'est important de vous en parler. C'est un spécialiste en cyberpédophilie et professeur à l'Université de Montréal, Francis Fortin. Bonjour.
Bonjour.
Bonjour. D'abord, un phénomène inquiétant.
Ben en fait, on peut le voir de deux façons. Hein. On pourrait le voir que le verre est à moitié vide ou à moitié plein. Moi, je pense que c'est des bonnes nouvelles que qu'on entend. Il y a une intervention qui est faite. D'un côté, il se passe quelque chose. On s'attaque au phénomène. On a des enquêteurs qui sont spécialisés, qui sont c'est ça leur travail, donc c'est de contrer ou de faire la lutte à ce phénomène-là. D'un autre côté, ben ça nous dit qu'effectivement il y a une quantité astronomique d'images qui continuent de circuler sur Internet, puis sans qu'on ait de façon très très claire d'arrêter cette prolifération-là. Là.
OK. S'il y a beaucoup de photos qui circulent, c'est parce qu'il y en a qui ont pris des photos. Est-ce qu'il y en a qui prennent des photos, peut-être, puis là, regarde, je vais exagérer, peut-être, Richard, puis bon, de leurs propres enfants ou de membres de la famille pour les revendre parce qu'il y a un marché de revente?
Bien, en fait, on n'a pas beaucoup d'informations sur le marché de revente, puis je vous dirais de ce qu'on peut voir, ça doit faire à peu près 15 ans que je m'intéresse à ce phénomène-là. Et c'est pas tellement quelque chose qui est lucratif. En fait, on est en présence d'un marché, là, je vais le mettre entre guillemets, d'amateurs. Là.
Et de voyeurs. Et de voyeurs, c'est ça.
Exact. Alors, on s'échange ces contenus-là. Bien sûr, on s'attaque au phénomène parce qu'on veut s'attaquer éventuellement aux producteurs. Mais en général, c'est très, très rare qu'on va arrêter des gens où là, il y avait effectivement de l'argent. Dans l'histoire, on a eu là des réseaux où on prenait l'argent des gens, on leur demandait leur carte de crédit. Mais ce qui arrivait, c'est que c'était facile à retrouver ces gens-là. Donc, ceux qui arrivaient, puis allaient. Oui, pardon.
Mais dis-moi une petite affaire. C'est pas banal. Je faisais la lecture un peu partout ce matin de tout ce qui se dit là-dessus. Il y a eu la mise en place d'un robot canadien il y a de ça quelques années. Si je ne m'abuse, c'est il y a 3 ans. OK? Et ce robot canadien-là, ce qu'il a pour objectif, là, le robot, lui, c'est de détecter, bien sûr, la pornographie qu'il y a juvénile, qu'il y a dans le monde, OK? Puis de rapporter ça au grand groupe afin de s'assurer que c'est plus là.
Puis de nettoyer.
Puis de nettoyer,
c'est une grande balayeuse.
On parle ici de 104 milliards d'images de pornographie juvénile à travers le monde dans les 3 dernières années qui ont été détectées. C'est pas des farces, là.
Faudrait voir 104 milliards, ça m'apparaît vraiment énorme. Mais oui, effectivement.
Je parle à travers le monde. Je parle toujours à travers le monde.
Ouais, OK, d'accord.
C'est à travers le monde.
Effectivement, il y en a beaucoup. Ce qui se passe aussi, ce qu'il faut garder en tête, c'est qu'on a encore dans les contenus qui sont transigés, on a encore des. Vous savez, à un moment donné, dans l'étape avant Internet, il y avait des revues physiques qui circulaient. Alors, c'était des revues là qui étaient sur lesquelles on avait des modèles très, très jeunes d'enfants. Et c'était des revues qu'on a finalement scannées, donc numérisées. Et finalement, ça se retrouve dans cette espèce de grande banque de données, de photos disponibles. Et donc, ça veut dire que ça fait longtemps qu'on... C'est depuis les années 70 qu'on a des contenus, puis au fur et à mesure, ça s'ajoute. Alors, ça finit par en faire. Puis là, avec la numérisation, la facilité que c'est maintenant de prendre des nouvelles vidéos, ben c'est clair que là, ce nombre-là, il arrête jamais de croître.
Ouais. Puis, il faut s'entendre sur les termes. Tu sais, quand on parle de pornographie juvénile, c'est quoi? Où des enfants sont impliqués? Parce que
ouais,
là,
en fait, ça, c'est intéressant. Ouais. La question est intéressante parce que on oublie souvent qu'au Canada, on a une des lois les plus sévères au monde sur comment on définit ce que c'est la pornographie juvénile. Alors, c'est tout en représentation d'un enfant dans un contexte sexuel. OK? Ça veut dire que dans certains cas, alors, c'est pas les gros dossiers, là, mais il y a des cas où des images ou des photos, vous savez qu'on a des exemples où on fait ce qu'on appelle des images composites, en bon québécois, on appelle ça du morphing. Donc, on prend la tête de quelqu'un, on met ça sur un corps d'un autre. Bien, ça, aux États-Unis, ça serait pas illégal, mais au Canada, ça le serait, OK? Donc, ça serait une représentation d'un enfant dans un cadre sexuel. Alors là, donc la définition est assez large. Ça inclut aussi du texte écrit, des enregistrements sonores. Ça inclut d'accéder à un site. Vous savez qu'à un moment donné, la loi a changé parce qu'on s'est rendu compte que pour accuser quelqu'un, il fallait absolument posséder le fichier. Maintenant, on n'a qu'à accéder à ce moment-là. On serait réputé avoir commis une infraction. Donc oui, effectivement, c'est assez large, puis ça implique beaucoup de comportements, donc un vaste étendue de comportements en lien avec la promo juvénile.
Merci beaucoup, toujours intéressant de vous entendre. Merci, M. Fortin.
Merci, bonne journée.
Francis Fortin, spécialiste de la cyberpédophilie, professeur à l'Université de Montréal.